Bonsoir, bienvenidas y bienvenidos sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Semillas Latinas, le premier de l'année 2025. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une année pleine de joie, d'amitié, de douceur, mais aussi d'apprentissage et d'engagement. Bref, mucha felicidad.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Ce mois-ci, notre exploration des cultures et des réalités contemporaines des pays d'Amérique latine fait escale au Venezuela. La semaine dernière, vendredi 10 janvier 2025, le président vénézuélien Nicolas Maduro a prêté serment pour un troisième mandat de 6 ans. Dans son discours, le chef d'État socialiste, qui a succédé en 2013 à Hugo Chavez et qui dirige depuis le Venezuela d'une main de fer, a affirmé qu'il s'agissait, je cite, « d'une grande victoire pour la démocratie vénézuélienne ». Pourtant, cette vision est très contestée. La principale coalition d'opposition, Plataforma Unitaria Democratica, a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un coup d'État, d'une usurpation du pouvoir permise par la force brute, et que c'était Edmundo González Urrutia, son candidat lors du dernier scrutin présidentiel, qui devait être investi. À l'aune de ces quelques déclarations, on mesure la gravité de la crise politique dont le Venezuela est le théâtre depuis 6 mois. Une crise qui peut être résumée en quelques mots, élections contestées, répression, arrestation, mort et incertitude. Comment en est-on arrivé là? En juillet 2024, le Conseil national électoral a déclaré Maduro vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,2% des voix, sans publier les procès-verbaux, se disant victime d'un piratage informatique. Cette affirmation a été jugée peu crédible par de nombreux observateurs et l'opposition, qui a publié les procès-verbaux fournis par ses scrutateurs, assure que son candidat a obtenu plus de 67% des voix. Les manifestations, qui ont éclaté dans tout le pays après l'annonce du Conseil national électoral, ont été durement réprimées, à tel point que l'ONG Human Rights Watch dénonce des violations généralisées des droits humains. Comme pendant les manifestations de 2014, 2017 et 2019, Maduro a pu compter sur le soutien des forces de sécurité et de l'armée, un pilier de son pouvoir, et sur un pouvoir judiciaire à ses ordres. Fortement contesté de l'intérieur, le régime est par ailleurs très isolé sur le plan international, et la grande majorité de la communauté internationale refuse d'admettre ce résultat jugé infondé. Washington a parlé de simulacre et imposé de nouvelles sanctions contre Caracas. De quoi compliquer encore davantage la tâche de Maduro, qui a promis au cours de sa campagne une amélioration de la situation économique du pays. Depuis 10 ans, le Venezuela est aux prises avec une crise économique et humanitaire sans précédent, entraînant l'exil de millions de Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Voilà pour le cadre général, et dans cet épisode, on va tâcher de mieux comprendre la politique menée par Maduro, en interrogeant d'abord l'héritage idéologique qui est le sien, à travers les notions de chavisme et de bolivarisme, grâce à la chronique de Manon et Paloma. Ensuite, on reviendra sur le contexte politique actuel, à travers l'échange de Sylvie et d'un enseignant-chercheur, Thomas Posado, maître de conférence à l'Université de Rouen. Ce sera ensuite au tour de Matteo Rey, étudiant franco-vénézuélien, de nous parler de sa famille et de son expérience de l'exil, un cas hélas représentatif de nombreux autres, étant donné l'importance de la crise des réfugiés. Mais ce n'est pas tout, cet épisode se clôturera par la chronique de Manon sur la fonte du dernier glacier vénézuélien, et celle de Pauline qui nous parlera d'un incontournable de la cuisine vénézuélienne, la cassave, préparée à partir du manioc et riche d'une histoire pluriséculaire. Paloma et Manon, c'est à vous.
Palo, tu penses que les oiseaux nous parlent?
Bah, à part si tu t'appelles Maduro, je crois pas trop, non?
C'est qui Maduro?
Bah, tu sais, le président du Venezuela. En 2014, il avait dit que l'ancien président, Hugo Chavez, qui était mort un an plus tôt, lui était apparu sous la forme d'un oiseau pour dire aux Vénézuéliens et aux Vénézuéliennes qu'il était plein d'amour pour la loyauté de son peuple.
Ah ok, mais il avait pas peur d'être ridicule en disant ça? C'est quoi l'intérêt?
Bah, non, pas du tout. En gros, Nicolas Maduro, il est devenu président à la mort de Hugo Chavez, qu'il avait désigné comme son successeur légitime, mais il n'avait pas vraiment été élu. Donc il avait vraiment besoin de dire que c'était l'héritier du chavisme. Et Hugo Chavez, c'est une grande figure au Venezuela, mais aussi même dans toute l'Amérique latine en général. C'était le président du pays depuis 1999, et il était notamment connu parce qu'il avait fondé le Parti Socialiste Unifié, et il avait mis en place la République Bolivarienne du Venezuela.
Ok, mais pourquoi pas la République chavézienne? Pourquoi la République bolivarienne?
Bah parce que justement, lui aussi, il se revendiquait d'un héritage politique, celui de Simón Bolívar, et donc du bolivarisme. Et Bolívar, c'était aussi une figure extrêmement importante en Amérique latine. On l'appelle El Libertador, le libérateur, parce qu'il avait mené et il avait participé à la révolution contre les colonies espagnoles, et donc à l'indépendance de plein de pays en Amérique latine, de la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, du Panama, du Pérou et donc du Venezuela. C'est littéralement la plus grande figure de l'émancipation du continent latino-américain. Et d'ailleurs, Maduro aussi mobilise la figure de Bolívar.
Ok, donc Maduro se revendique de Chavez, qui se revendique lui-même de Bolívar, c'est ça? Mais comment ça se traduit concrètement dans la politique vénézuélienne aujourd'hui?
Bah, si on doit résumer, Bolívar, lui, prenait la fin du colonialisme, et chez Maduro et chez Chavez, ça devient la fin de l'impérialisme américain, et donc la lutte contre l'ingérence des États-Unis. Et quant au chavisme dont Maduro se veut l'héritier, il est question d'un socialisme qui se traduit par des politiques sociales qui sont financées par la manne du pétrole. Cette économie rentière de l'or noir, elle est assez centrale dans la politique. C'est elle qui fonde et qui a fondé toute la légitimité des gouvernements de Chavez et de Maduro. Mais c'est tristement ironique parce que justement, elle les rend ultra dépendants des cours mondiaux et des autres pays pour les importations, ce qui est complètement décalé avec leur positionnement anti-impérialiste. Et totalement lié à ça, le socialisme de Chavez et de Maduro, c'est aussi un clientélisme et une corruption extrêmement forte. Par exemple, les conseils communaux qui ont été créés par Chavez et ensuite maintenus par Maduro et les mouvements sociaux doivent prêter allégeance au chef de l'État qui tient les cordons de la bourse au prix de leur autonomie. Mais au-delà de ces points communs concrets, l'objectif pour Maduro, c'est surtout de faire appel au culte de la personnalité qui lui permet de laisser les mesures concrètes de côté pour se concentrer sur un récit commun.
Oui, je vois, ok. Un peu comme Che Guevara, quoi. Après, bon, je vais peut-être pas te lancer sur le guevarisme maintenant, mais bon.
Bah, justement, t'as raison. Enfin non, j'utilise un dernier isme, mais c'est plutôt pour te parler du caudillisme. Le caudillisme, c'est cette espèce de culte de la personnalité, du chef de l'État, qui vient de grandes figures militaires et adulées telles que Bolívar ou justement Guevara. Et ça a été ensuite théorisé comme un régime politique qui est caractérisé par un pouvoir très centralisé et autoritaire et qui est dirigé par un seul individu, donc le fameux caudillo, que ce soit avec ou sans le consentement populaire. Et Hugo Chavez, plus que tout autre, il a vraiment incarné ce renouveau du caudillisme. C'est hyper répandu en Amérique latine chez les représentants de la gauche autoritaire et populiste, par exemple comme avec Perón et le péronisme, qui lui aussi a accédé au pouvoir par un putsch militaire.
Mais c'est dingue que ça fonctionne encore, non ?
Oui, mais aujourd'hui c'est d'autant plus renforcé avec la télé, les réseaux sociaux, il y a une vraie mise en scène de ces grandes figures d'autorité.
Je capte. Et donc Maduro, il veut légitimer quoi avec ses héritages politiques en fait ?
Eh bah, tout simplement son autorité. Comme je te disais tout à l'heure, Maduro, il n'a pas vraiment été élu et il a vraiment eu besoin de mobiliser les figures de Chavez et de Bolívar. Surtout que depuis son arrivée au pouvoir, la situation n'a fait que de se dégrader sur tous les plans. Si le socialisme bolivarien de Chavez avait pour le coup réussi, malgré toute la corruption, à réduire la pauvreté, à faire progresser la scolarisation et l'accès aux soins, c'est pas du tout le cas avec Maduro. Le contexte économique et la manne pétrolière ont fait que le socialisme s'est transformé en pénurie économique et en répression politique à gogo. Donc revendiquer ces personnages aujourd'hui, ça lui permet de se présenter comme l'héritier du socialisme bolivarien, tout en étant de plus en plus autoritaire et répressif, au point qu'il a menacé d'un bain de sang s'il n'était pas réélu.
Ok, bon, je crois que je préfère retourner écouter les oiseaux, moi.
Et merci beaucoup Manon et Paloma pour ces éclairages. Tout de suite, un petit interlude musical avec Oscar de León, dit El Sonero del Mundo, figure tutélaire de la salsa vénézuélienne qui se produit encore sur scène à plus de 80 ans, avec son titre Llorarás.
Thank you. así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí.
C'était Oscar De Leon, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Semillas Latinas. Pour cet épisode consacré à la montée de l'autoritarisme au Venezuela, Sylvie a eu la chance de pouvoir échanger avec l'enseignant-chercheur Tomás Posado au sujet de son analyse du contexte politique actuel.
Tomás Posado, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être au micro de Semillas Latinas. Vous êtes maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen et auteur de l'ouvrage « Venezuela de la révolution à l'effondrement, le syndicalisme comme prisme de la crise politique » publié aux presses universitaires du Midi en septembre 2023. Vous êtes ici pour nous parler du contexte politique au Venezuela suite à l'investiture de Nicolas Maduro le 10 janvier dernier. Et sans avoir présenté les résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet 2024, le parti au pouvoir revendique une victoire avec 52% des voix contestées par l'opposition. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer comment s'est déroulée cette élection présidentielle du 28 juillet 2024 ?
Elle s'est déroulée dans un climat d'assez forte tension. Le Venezuela connaît une crise assez forte depuis le début de la présidence de Nicolas Maduro. Et la population est mécontente de l'action de Nicolas Maduro pour différentes raisons qu'on va sans doute aborder. Et dans ce climat de défiance, Nicolas Maduro a souvent réussi à diviser l'opposition en mettant des obstacles institutionnels dans le scrutin. Là, l'opposition elle a choisi de participer au scrutin et Nicolas Maduro a tenu le scrutin jusqu'au bout, mais tout le monde savait que ça risquait de se terminer comme cela s'est terminé, c'est-à-dire que la population vote massivement pour l'opposition, mais le pouvoir affirme une victoire. Si on peut dire que l'opposition a sans doute gagné ce scrutin, c'est qu'elle a consigné les procès-verbaux de plus de 80% des bureaux de vote et qui lui donne une victoire assez écrasante de 67% contre 30%. Donc, enfin, sans doute que les pourcentages ne sont pas exacts, hein, puisqu'il n'y a pas tous les bureaux de vote, mais des marges qui ne sont pas réversibles et des procès-verbaux qui ont été validés par des organisations indépendantes comme la Fondation Carter, qui avait en son temps reconnu des victoires de Chavez que remettait en cause l'opposition sans en avoir la preuve et dont les fraudes n'étaient à ce moment-là pas avérées.
Oui, donc on fait face à un cas de fraude électorale historique. Et est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quel type de dysfonctionnement ont pu être observés en amont de l'élection présidentielle et pendant l'organisation du scrutin présidentiel du 28 juillet 2024
En amont du scrutin, ce qui peut permettre déjà de comprendre le contexte autoritaire dans lequel se déroule cette élection, c'est par exemple de constater qu'il y a plusieurs candidatures importantes qui ont été invalidées sans raison juridique valable, si ce n'est des raisons politiques. Le candidat principal de l'opposition, donc Edmundo González, n'était que le troisième choix en fait, de l'opposition, hein, qui avait validé María Corina Machado dans une primaire, puis qui avait proposé Colonna Violis et donc qui s'est fait refuser. Ça vaut donc pour cette opposition libérale, mais ça vaut aussi pour une opposition de gauche. Le Parti communiste vénézuélien, par exemple, voulait soutenir la candidature de Manuel Isidro Molina et n'a pas pu se présenter au scrutin. Donc on a, à travers ces deux exemples, hein, y compris d'autres candidatures qui sont rendues inéligibles, la candidature d'Henrique Capriles, qui a été 2 fois candidat de l'opposition aux élections présidentielles, qui est inéligible pour des raisons qui sont éminemment politiques et qui font que ce scrutin est, avant même son déroulement, entaché de mesures, d'un contexte autoritaire.
Donc vous mentionnez le fait que plusieurs candidatures ont été déclarées inéligibles, mais que celle de Edmundo González a donc pu être présentée en tant que candidat de l'opposition. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Edmundo González et aussi peut-être pourquoi vous pensez que sa candidature a été retenue?
Alors pourquoi elle a été retenue, hein, ce seraient les instances électorales qui pourraient le dire. Enfin, c'est quelqu'un, Nuno Gonzalez, c'est quelqu'un jusqu'à une période récente qui était inconnu de la plupart des Vénézuéliens. C'est un vieux diplomate qui n'a jamais joué un rôle politique de premier plan et qui, dans le moment de déposer des candidatures avec des délais extrêmement resserrés, qui est la personnalité que l'opposition a retenue. Peut-être que le pouvoir pensait que une personnalité aussi peu connue, avec une notoriété aussi faible dans la population vénézuélienne, ne pouvait pas gagner. C'est une proposition d'explication, hein, j'en ai aucune preuve. S'il a réussi à l'emporter malgré cette notoriété extrêmement faible, c'est que María Corina Machado, donc, qui avait gagné la primaire, a fait campagne avec lui et a sillonné le pays sur la base de « si vous croyez en moi, votez pour lui ». Et au-delà de la figure de María Corina Machado, Edmundo González est devenu un peu le symbole d'un tout sauf Maduro. D'autant plus que personne n'a grand-chose à lui reprocher à Edmundo González parce qu'il n'est pas connu de la population vénézuélienne et donc il est devenu plutôt le moyen d'un vote sanction contre un pouvoir qui est impopulaire auprès de la population vénézuélienne.
Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer comment l'opposition s'est organisée, quelle a été sa stratégie pour participer à ce scrutin présidentiel et aussi quel est réellement son programme électoral, s'il y en a?
Traditionnellement, l'opposition vénézuélienne à Chavez, puis aujourd'hui à Nicolas Maduro, elle est implantée dans les quartiers les plus riches des villes du Venezuela. Elle a un projet plutôt libéral économiquement. Sa stratégie, je le disais, hein, qui avait une des objets de clivage le plus important au sein de l'opposition ces dernières années, c'est le rapport au gouvernement Maduro entre ceux qui sont prêts à des tentatives de conciliation malgré les obstacles que met Nicolas Maduro sur la route et ceux qui sont dans une radicalité et dans un affrontement le plus brutal possible avec Nicolas Maduro. Les fractions qui dirigent l'opposition actuellement sont plutôt parmi celles qui étaient pour l'affrontement le plus brutal avec Nicolas Maduro. La figure de María Corina Machado, c'est cette figure-là. Hein, elle appelait à une intervention contre son propre pays. Elle a des sympathies pour des gens comme Javier Milei, comme Nayib Bukele, enfin des gens qui sont très à droite sur le spectre politique. Sa stratégie dans cette élection, elle n'a pas été réellement fondée sur ses aspects idéologiques, mais sur une volonté d'en finir avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Le slogan de María Corina Machado dans cette présidentielle, c'était hasta el final, jusqu'à la fin. Donc en finir avec cette période qui est jugée oppressante pour les Vénézuéliens, pour beaucoup de Vénézuéliens du moins. Et une autre proposition qui a eu un impact dans la campagne électorale vénézuélienne, c'est le retour des 7,9 millions de Vénézuéliens qui sont à l'étranger. C'est une proposition qui est un peu utopique, hein, parce que on ne voit pas très bien comment concrètement l'opposition pouvait ramener et accueillir à nouveau ces 7,9 millions de personnes. Puis sans doute beaucoup ont fait leur vie, ont des liens professionnels, familiaux dans leur pays d'accueil. Mais ça révèle ce trauma dans la société vénézuélienne de familles qui sont déchirées, de parents, d'enfants, de frères, de sœurs qui sont à l'étranger, qui sont partis principalement en raison de la crise économique et qui sont aujourd'hui une souffrance de ce déchirement du peuple vénézuélien sur lequel l'opposition a capitalisé et a réussi à le transformer en vote et en vote massif lors de ces élections du 28 juillet.
Et donc, vous parlez de ces 7 millions de personnes vénézuéliennes qui sont vues forcées à l'émigration. Beaucoup sont parties dans des pays latino-américains, notamment en Colombie, pays frontalier avec le Venezuela. Est-ce que cette frange de la population, elle a quand même pu voter à cette élection présidentielle ?
Non, c'est d'ailleurs une des raisons supplémentaires hein, qui permettent de qualifier ce scrutin de non démocratique. Donc il y a 7,9 millions de personnes à l'étranger. Ramené aux personnes qui sont en âge de voter, ça fait entre 4,5 millions et 5 millions de personnes. Des personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales pour cette élection, c'est un peu moins de 70 000 personnes. Donc ça représente à peine 1% hein, de ce total. C'est extrêmement dérisoire. Pour expliquer cela, alors il y a des raisons juridiques qui font que si vous n'avez pas la présence légale dans le pays d'accueil, vous ne pouvez pas voter à l'élection vénézuélienne. Mais même dans les pays où cet accueil est légalisé, je pense notamment à l'Espagne en particulier, mais ou dans plein d'autres pays hein, où il y a une proportion importante de Vénézuéliens qui ont la légalité dans leur pays d'accueil, le gouvernement vénézuélien a restreint le plus possible les horaires d'ouverture des ambassades, des consulats pour s'inscrire sur les listes électorales, sachant que ce corps électoral était plutôt acquis à l'opposition et que c'était un corps électoral sur lequel il ne pouvait pas faire pression. Donc il a limité au maximum cette inscription. Enfin voilà, 70 000 sur un échantillon de 4,5 millions, 5 millions de personnes, c'est vraiment extrêmement minime.
Oui, c'est une part de la population qui est énormissime et qui, de fait, remet en question le caractère démocratique de cette élection. Est-ce que vous pourriez nous dire, suite à la proclamation comme candidat gagnant de Nicolas Maduro, quelle a été la réaction de la gauche latino-américaine ?
Les réactions des gauches latino-américaines ont été assez hétérogènes. Il reste quelques gouvernements qui continuent à être fidèles à Nicolas Maduro, mais très peu, et qui ont évolué eux-mêmes vers des horizons autoritaires, je pense à Cuba et au Nicaragua. À l'opposé, il y a Gabriel Boric, qui depuis la gauche critique Nicolas Maduro comme une dictature. Entre les deux, il y a des États comme le Brésil, la Colombie et dans une moindre mesure le Mexique qui ne reconnaissent pas les résultats des élections du 28 juillet, mais qui essayent de maintenir des ponts avec Nicolas Maduro, qui envoyé pas des ministres, mais des ambassadeurs à la cérémonie d'investiture du 10 janvier. Et qui essaye de proposer une médiation, alors une médiation qui affronte de nombreuses limites, c'est-à-dire que c'est difficile de faire une médiation quand on n'a pas des acteurs qui, localement, à l'intérieur du pays, veulent cette médiation. Hein. La proposition de Lula, au moment des élections, c'était de recommencer les élections, une proposition qui avait été rejetée à la fois par Nicolas Maduro et à la fois par Maria Corina Machado, la principale dirigeante de l'opposition, alors en arguant que la répression à laquelle avaient fait face ces militants, ils n'avaient pas envie de l'affronter à nouveau, qu'ils n'avaient pas envie de refaire des élections jusqu'à ce que Nicolas Maduro reconnaisse sa défaite. Mais c'est difficile d'imaginer une médiation internationale si, à l'intérieur du pays, les deux camps n'ont pas vraiment envie de négocier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une gauche qui reste fidèle à ses idéaux démocratiques et qui rejette les pratiques autoritaires de Nicolas Maduro.
Donc oui, vous évoquez une réaction de la gauche qui reste assez hétéroclite dans l'ensemble de la région latino-américaine. Et qu'en est-il de la réaction de la population vénézuélienne suite à la réélection contestée de Nicolas Maduro ?
La population vénézuélienne, elle n'a pas cru au résultat des élections du 28 juillet. Enfin, ce qui se sentait dans la société vénézuélienne, c'est que Nicolas Maduro n'est pas aimé. Et une des réactions qui a été assez massive, surtout les deux jours qui ont suivi le scrutin, les 29 et 30 juillet, c'est des centaines de protestations, y compris dans des endroits qui auparavant votaient Chavez, puis Maduro, dans des quartiers populaires dans les grandes villes, notamment à Caracas. Une ONG qui signalait qu'il y a eu 900 protestations dans l'ensemble du pays. Ces deux journées, des 29 et 30 juillet, des protestations qui ont été réprimées durement, plus durement que d'habitude au Venezuela. Pas tant en nombre de morts, hein. Enfin, il y a un nombre de morts important, entre 20 et 30, mais il ne dépasse pas ce qu'on a pu connaître dans d'autres vagues de protestations en 2014 et 2017. Mais par contre, il y a une vague d'arrestations qui est extrêmement massive. Le pouvoir a parlé de 2400 arrestations, les ONG parlent plutôt de 1800, 1900 arrestations, mais de toute façon, un nombre extrêmement élevé, avec parmi eux des adolescents à qui on reprochait simplement d'avoir envoyé un message WhatsApp où il contestait les résultats électoraux approuvés par des instances électorales. Donc on a eu une vague de répression assez massive face à des protestations spontanées qui ne croyaient pas aux résultats du 28 juillet.
Oui, il avait même parlé qu'il y aurait un bain de sang si jamais il ne remportait pas cette élection présidentielle, ce qui est quand même un propos très marquant pour la population. Et est-ce que je ne sais pas si on a des estimations chiffrées, mais est-ce qu'une part de la population est encore favorable au régime Maduro?
Oui, il existe une part de la population favorable à Nicolas Maduro. On mentionnait les différents chiffres, hein, les chiffres du gouvernement ou les chiffres de l'opposition pour le scrutin du 28 juillet. Même si on prend les chiffres de l'opposition, qui sont les plus probables, il y a 30% du corps électoral qui a voté pour Nicolas Maduro. C'est pas la majorité de la population, mais c'est un noyau dur qui est très très loin d'être négligeable. Certains sont fortement incités sous la menace de licenciement ou de suspension de leurs programmes sociaux, mais c'est aussi des gens qui ont une fidélité à Chavez, qui ont eu leurs conditions de vie qui se sont améliorées à ce moment-là, qui ont eu accès à un logement, qui ont eu accès à des papiers d'identité. Il y a toujours ce rêve, hein, d'une période dorée, qui croit au récit de Nicolas Maduro, d'une guerre économique, que l'ensemble de la crise économique serait due aux États-Unis. Ça me semble pas exact, mais il y a une partie de la population qui y croit. Il y a une partie qui continue à voter Nicolas Maduro parce qu'elle rejette l'opposition et qu'elle a peur d'une revanche sociale, hein, de ces classes plus aisées. Donc il y a une partie de la population qui vote pour Nicolas Maduro. C'est sans doute pas la majorité, mais c'est un noyau dur qui n'est pas négligeable. Et qui est reconnu d'ailleurs dans les chiffres de l'opposition, hein. Elle reconnaît, hein, qu'il y a une partie de la population qui est favorable à ce gouvernement, même si c'est très nettement minoritaire aujourd'hui.
Et vous évoquez aussi le rôle des États-Unis pour expliquer cette crise multifactorielle que traverse le Venezuela, qui est en partie sûrement responsable de cette situation assez alarmante. Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer quel a été donc le rôle des États-Unis et quel est son rôle actuel dans la perpétuation de cette crise vénézuélienne?
Oui, voilà, les États-Unis ont déclenché des mesures coercitives unilatérales d'une rare brutalité, surtout à partir de 2019. Alors, ce n'est pas l'origine de la crise économique au Venezuela. Venezuela a perdu quasiment 80% de son PIB entre 2014 et 2020. Un économiste vénézuélien a fait des calculs et estime que la moitié de cette ampleur vient des sanctions états-uniennes. Donc, ce n'est pas l'entièreté de la crise, ce n'est pas l'origine de la crise, mais c'est une ampleur majeure et non négligeable. C'est des mesures qui, donc, à partir de 2017, donc sous Donald Trump, empêcher le Venezuela de contracter de la dette auprès de citoyens ou d'entreprises états-uniennes, mais surtout à partir de 2019, qui ont stoppé les échanges entre le Venezuela et les États-Unis, et qui avait une dimension extraterritoriale, c'est-à-dire qui limitait le commerce du Venezuela avec d'autres pays, qui obligeait le Venezuela à faire des circuits commerciaux extrêmement complexes pour contourner ces sanctions. Le Venezuela et les États-Unis, depuis le début de l'élection de Chavez, ont des relations diplomatiques assez tendues. Mais jusqu'en 2018, jusqu'à ces sanctions brutales mises en place par Donald Trump, les États-Unis étaient le premier fournisseur et le premier client du Venezuela. Du jour au lendemain, en l'espace de 2 mois, le flux de pétrole du Venezuela vers les États-Unis tombe à zéro. Et donc, c'est un facteur d'aggravation de cette crise, un facteur majeur d'aggravation de la crise économique. Les États-Unis n'ont pas suspendu ces sanctions au moment de l'alternance entre Trump et Biden, n'ont pas suspendu pour des raisons sanitaires au moment du Covid. Par contre, ils l'ont commencé à l'assouplir face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et surtout depuis octobre 2023, on a de nouveaux échanges. Aujourd'hui, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial en termes d'envoi de pétrole derrière la Chine. Donc, enfin, ce qui rend le Venezuela assez classique, hein, dans le panorama latino-américain. Avoir la Chine comme premier partenaire commercial et les États-Unis comme second, c'est assez classique. Et on a autour de 200 000, 300 000 barils par jour qui vont du Venezuela vers les États-Unis, avec aujourd'hui une inconnue, depuis que Donald Trump a été élu président. président, on se demande ce qui va se passer autour de cette reprise commerciale. Trump serait fort capable, et c'est ce qu'on voit déjà à l'égard du Mexique ou de l'Amérique centrale, de faire un chantage extrêmement agressif, sous peine d'obliger des déportations forcées de Vénézuéliens au Venezuela, de Vénézuéliens qui ont émigré aux États-Unis, qui soient récupérés au Venezuela, contre leur consentement, contre leur gré, et sous la menace donc d'un durcissement de ces sanctions qu'avait assoupli Joe Biden. Donc on est dans cette incertitude où, que ce soit pour les migrants vénézuéliens, que ce soit pour l'économie vénézuélienne, il y a de graves dangers à l'élection de Donald Trump. Après, Donald Trump menace beaucoup, beaucoup de pays depuis qu'il a été élu président. Il ne pourra peut-être pas tenir ses menaces sur la moitié de la planète en même temps. Ça, seules les prochaines semaines vont nous le dire.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et est-ce que vous pourriez nous dire en matière économique quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement Maduro pour faire face à cette crise que traverse le pays suite aux sanctions notamment imposées par les États-Unis ?
Le gouvernement Maduro, depuis quelques années, mène une politique économique assez libérale, alors à l'encontre du préjugé qu'on pourrait avoir du successeur de Chavez qui professait le socialisme. Dans cette situation de crise avancée, Nicolas Maduro met en place des lois qui essayent d'attirer des investisseurs, surtout chinois, quitte à leur confier la propriété des sous-sols du Venezuela à l'encontre de ce que dit la Constitution. On a récemment une prorogation des exonérations sur les importations. Pendant la campagne, ils proposaient une suppression de l'impôt sur les grandes transactions financières. Donc, une politique qu'on qualifierait économiquement volontiers de libérale, qui a des résultats en termes de croissance économique, c'est-à-dire qu'il y a des liquidités, il y a moins de pénuries au Venezuela, et il y a une croissance cumulée de l'ordre de 15-20% depuis 2021, mais qui a aussi des conséquences d'aggravation des inégalités assez fortes, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle élite économique qui s'accommode très bien du pouvoir autoritaire de Nicolas Maduro, qui apprécie même cette stabilité politique qu'offre Nicolas Maduro, mais une population qui, elle, souffre de salaires extrêmement bas. Hein. Le salaire minimum est de l'ordre de 3 dollars quand le panier alimentaire mensuel est de l'ordre de 500 dollars. Donc, la population vénézuélienne subit des difficultés énormes quand une petite élite économique se satisfait de la consolidation autoritaire de Nicolas Maduro.
Oui, tout ça s'accompagne notamment d'une politique aussi de dollarisation de l'économie qui renforce les inégalités sociales. Et suite à la reprise du pouvoir donc de Maduro le 10 janvier dernier, est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer très rapidement qu'est-ce qu'elle a fait en réaction l'opposition face à ce scénario antidémocratique?
L'opposition proteste, l'opposition fait appel à la communauté internationale, l'opposition fait appel à l'armée pour s'insubordonner, mais l'opposition est relativement démunie parce que Nicolas Maduro garde le contrôle de l'armée, garde le contrôle de l'essentiel des pouvoirs au Venezuela, c'est-à-dire le système juridique est loyal à Nicolas Maduro, toujours favorable à Nicolas Maduro, les instances électorales sont favorables à Nicolas Maduro, les forces de l'ordre, que ce soit l'armée, la police, les différents corps armés sont favorables à Nicolas Maduro, et donc de fait, même là, les manifestations n'étaient pas d'une ampleur aussi massive que ce qu'on a vu fin juillet dernier, précisément parce qu'il y a une partie de peur hein, qui se manifeste, qui a un lien de l'opposition, je vous disais, qui était plutôt lié aux classes possédantes et donc qui n'a pas un enracinement dans la société vénézuélienne aussi profond qu'il serait nécessaire pour arriver à renverser Nicolas Maduro, mais surtout le principal levier hein, sur lequel Nicolas Maduro se maintient aujourd'hui au pouvoir, c'est celui de la peur.
Ben merci beaucoup Thomas Posado d'avoir été avec nous ce soir. Et pour rappel, vous êtes maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen et auteur de l'ouvrage Venezuela de la révolution à l'effondrement, le syndicalisme comme prisme de la crise politique, publié aux presses universitaires du Midi en septembre 2023. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à toi Sylvie d'avoir mené cette interview. Et maintenant, nous allons revenir plus en détail sur la crise des réfugiés qui touche le Venezuela depuis plus de 10 ans et qui constitue, selon les Nations Unies, le déplacement de population le plus massif de l'histoire récente en Amérique latine. Débuté sous la présidence d'Hugo Chavez et poursuivi sous celle de Nicolas Maduro, cet exode massif s'explique notamment par la crise économique qui a frappé le pays dans les années 2010. S'il a d'abord concerné des professionnels hautement qualifiés, des universitaires et des jeunes diplômés, le phénomène migratoire s'est énormément intensifié et étendu à partir de 2015 à toutes les classes sociales. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Matteo Rey, fraîchement diplômé d'un master de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui va nous parler de l'exil à partir de son vécu et de celui de ses proches. Bonsoir Matteo.
Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler du pays de ma mère, le Venezuela, et de mon expérience familiale marquée par l'exil, liée à la crise migratoire vénézuélienne.
Une question toute simple pour commencer. Est-ce qu'il te reste des souvenirs de ton pays d'origine ?
Oui, bien sûr. J'ai suivi une partie de ma maternelle là-bas. Je me souviens encore de mon uniforme en rouge, rappelant les couleurs du parti chaviste. Je me rappelle aussi des vacances là-bas, mais je n'y suis pas retourné depuis 2014.
Merci beaucoup de ta présence parmi nous. Nous t'écoutons avec attention.
Donc aujourd'hui, je veux vous parler de ma famille et de tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes qui sont partis comme eux, sans savoir s'ils pourraient revenir un jour. Ma famille, les Sandrea, est aujourd'hui morcelée entre les États-Unis, le Costa Rica et la France. Parmi les 5 frères et sœurs de ma mère, seule Anaïs est restée au Venezuela. Les autres ont dû reconstruire leur vie en exil en repartant de zéro. Cette vague migratoire est liée à la crise économique vénézuélienne qui a éclaté en 2013. Je remarque que chaque récit d'immigration est unique, teinté des réalités complexes des pays d'accueil. Par exemple, mes deux oncles, Carlos et Gilberto, vivent aux États-Unis, un pays où les lois migratoires sont extrêmement strictes. Ça a compliqué les dynamiques familiales. Ils n'ont pas pu, par exemple, assister aux funérailles de mon grand-père, de peur de perdre le statut de réfugié. Quitter brutalement le Venezuela, c'est aussi ce qu'a vécu mon ami Josh, que j'ai rencontré en Colombie lors de mes études. Né à Caracas, il a d'abord immigré en Colombie. La Colombie accueille aujourd'hui 2,9 millions de Vénézuéliens, soit 70% des déplacés de la région. Cela s'explique par des raisons géographiques, culturelles et historiques, mais aussi par des politiques publiques adaptées. Le nouveau président colombien s'est distingué par une ouverture des liens avec le Venezuela. Il a par exemple mis en place le Permiso Especial de Permanencia, PEP, une résidence temporaire aux citoyens et citoyennes vénézuéliennes. Et en 2021, un statut de protection temporaire, PPT, a été créé, permettant à ces personnes migrantes de régulariser leur situation pour une durée de 10 ans. Cependant, tout n'est pas si rose. Josh avait une situation très compliquée en Colombie. Avec un salaire équivalent à 200 euros par mois, le SMIC colombien, il peinait à subvenir à ses besoins. Il y a 3 ans, il a donc décidé de partir pour l'Europe, où il espérait trouver une vie plus douce. À son arrivée, il a vécu dans la rue pendant une semaine. Il s'en sort grâce à sa passion pour le skate et aux autres migrants latinos qu'il rencontre sur les spots qu'il fréquente. Grâce à eux, il trouve un logement et un emploi, et aujourd'hui, il a un CDI et des papiers en règle. Il lui a à nouveau permis de vivre, et j'en suis très content. Et comme dans d'autres diasporas organisées en réseau, les communautés vénézuéliennes sont un recours essentiel pour les nouveaux arrivants.
Et tous ces parcours personnels, pour le moins compliqués, sont la conséquence des maux qui rongent le pays. On comprend ces départs et leur explosion dans les années 2010, avec une économie à la dérive, l'insécurité croissante, la répression étatique, les pénuries de vivres et médicaments et des produits de première nécessité devenus introuvables. À titre d'exemple, l'hyperinflation s'élevait à 2610% en 2017, soit la plus forte du monde. Et pour vous faire une idée, au début de l'année 2019 au Venezuela, une boîte d'œufs ou un rouleau de papier toilette coûtait près de la moitié du salaire minimum, soit environ 180 millions de bolivars.
Tout à fait, tout à fait. Le Venezuela, qui était pourtant un des pays les plus riches d'Amérique latine, a vu en 10 ans 9 millions de personnes partir, soit un quart de sa population. Il fuit la faim, la violence généralisée et les répressions étatiques. Et cette crise est aujourd'hui considérée comme la plus importante crise migratoire du XXIe siècle. Aujourd'hui, on fuit le pays pour de nouvelles perspectives, mais on fuit surtout par nécessité. En 2018, les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes ont perdu en moyenne 11 kilos. Ils appellent ça pour rire le régime Maduro. Voilà ce qui pousse un peuple à partir de chez lui. Et tout le monde part, mobilise ses réseaux et se débrouille. Même des professionnels qualifiés comme ce chauffeur de taxi rencontré un jour, ancien ingénieur pétrolier, parti pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. C'est une preuve de résilience du peuple vénézuélien. Et il est intéressant de noter que la plupart des mouvements migratoires s'effectuent entre pays voisins. Contrairement à ce que prétendent certaines personnes comme Donald Trump, peu de Vénézuéliens et Vénézuéliennes finissent aux États-Unis comparativement au reste de l'Amérique. Et ceux et celles qui y parviennent, comme mon oncle Carlos, sont très souvent très qualifiés. Carlos, mon oncle, est vétérinaire comme son père et est spécialisé en cardiologie. une spécialité très rare aux États-Unis. En Amérique latine, on aborde autrement le problème. Pour beaucoup de politiques, le phénomène migratoire vénézuélien est un fait social neutre résultant d'une grave crise humanitaire qu'il faut gérer. Et j'admire ce pragmatisme. On expérimente par la même occasion de nombreuses solutions. Les travaux de Luciana Gandini, une spécialiste des mouvements migratoires, ont démontré que les politiques qui semblent mieux marcher sont les plus accueillantes à l'égard des migrants et des migrantes. Elle remarque qu'aucun mur ne peut détenir un affamé. Simplement, plus il est haut, plus l'individu se mettra en danger pour le franchir. Je veux finir avec les paroles de mon oncle, qui, lorsque je lui ai demandé s'il était heureux aux États-Unis, m'a répondu « Je gagne bien ma vie, moi et ma famille ne manquons de rien. Mais je ne fais que travailler, je n'ai que très peu de temps pour profiter de ma vie, comme je le faisais au Venezuela. On n'y vit pas de la même manière ici et là-bas. Je regrette aujourd'hui mon pays et ce qu'il aurait pu nous offrir. »
Merci infiniment, Mathéo, pour ce témoignage poignant, à travers lequel transparaissent les déchirements et les éclatements familiaux, amicaux et affectifs auxquels ont dû se résoudre tant de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes. Merci.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants après le morceau Agua de La Chica, chanteuse, autrice, compositrice franco-vénézuélienne. Morceau remixé par Uri, un artiste et producteur de musique électronique argentin qui est aussi ethnomusicologue. Et comme annoncé dans le titre de ce morceau, c'est bien d'eau qu'on va vous parler maintenant, l'eau des glaciers dont la fonte s'accélère. Salut Manon, j'ai lu que les Nations Unies avaient déclaré l'année 2025 comme celle de la préservation internationale des glaciers.
Hello Annaëlle, et oui, en effet, il était peut-être temps, et peut-être qu'il serait aussi temps que ces grands credos servent à quelque chose. Parce que 2025, ça a aussi commencé comme ça, le Venezuela est le premier pays au monde à avoir perdu la totalité de ses glaciers. Alors oui, il y a des glaciers au Venezuela, dans la cordillère des Andes. Et non, ils ne sont en revanche pas ou plus comme dans le film La Sociedad de la Nieve, réalisé par l'Argentin Juan Antonio Bayona en 2024, qui nous traumatisa tous, je pense, avec ce blanc à perte de vue étouffant et vertigineux. Les glaciers vénézuéliens, ils ne sont pas similaires à ce film-là, pas parce que le film a menti, mais bien parce que les scientifiques et les chiffres du changement climatique, eux, ne mentent malheureusement pas. Le Venezuela vient donc en effet de perdre la totalité de ses glaciers, qui s'étendaient il y a un siècle sur une superficie de 1000 hectares. Le dernier glacier était la Corona, qui se situait plus précisément dans la Sierra Nevada de Mérida, située à peu près 5000 mètres d'altitude, et il est désormais réduit à une maigre étendue de glace, si petite que les scientifiques du pays le considèrent déjà comme mort. On parle bien de moins de 2 hectares, soit 3 terrains de football, bien loin des 450 hectares de l'époque. Il lui reste moins de 5 ans à vivre, nous alerte le professeur Julio César Centeno de l'Université des Andes de Mérida. Et avant lui, c'était déjà la Concha et le Bolivar qui s'étaient respectivement éteints en 90 et en 2017. Disparition annoncée, prévisible, oui. Les scientifiques ont démontré, et les faits aussi, que les neiges éternelles sont vouées à disparaître dans la grande majorité des tropiques sous l'effet du dérèglement climatique. Et les presque 5000 mètres d'altitude de la corona n'y ont pas suffi. Le changement climatique fait en effet remonter en altitude l'isotherme 0 degré, c'est-à-dire la limite au-dessous de laquelle les températures sont positives. Sous cette frontière, les glaciers ne peuvent pas survivre. Donc, à plus ou moins longue échéance, le réchauffement condamne la grande majorité des glaciers tropicaux du globe, dont 99% se trouvent en Amérique du Sud, essentiellement au Pérou, en Bolivie, en Colombie et en Équateur. Plus largement, c'est toute la cryosphère, l'ensemble des masses de glace, de neige et de sol gelé, qui est fragilisée sous l'effet du dérèglement climatique, en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Et les glaciers font en effet partie des premiers témoins du réchauffement climatique. Selon une légende amérindienne, 5 aigles blancs battaient des ailes pour recouvrir de neige les crêtes les plus abruptes de la cordillère de Mérida au Venezuela. Ces rapaces, ben désormais et aujourd'hui, ils ont disparu ou presque. Parce que sous la fonte des neiges et du changement climatique, c'est en effet un écosystème qui s'est éteint. Mais c'est aussi tout un écosystème post-glacier inconnu qui émerge et de fait potentiellement porteur de virus, de bactéries encore inconnues de l'homme. Et la dernière fois, on s'en rappelle que les humains se sont aventurés et ont exploité des territoires pas encore touchés. On sait ce qu'il s'est passé, une épidémie mondiale. Bon, voilà pour les bonnes nouvelles. Mais là arrive ce qui m'a le plus consternée. C'est ce qui a été proposé par le ministère de l'écosocialisme. Une dernière opération pour tenter de freiner l'irrémédiable, l'impossible retour en arrière. Une bâche de polypropylène déployée sur près de 600 mètres carrés afin d'isoler le quasi rien qui reste du glacier, des rayons du soleil et de ralentir sa fonte. Non seulement cette action sonne comme un coup d'épée dans l'eau, l'acte de guérir une grippe stade terminale plutôt que prévenir, mais en plus elle pourrait être extrêmement néfaste pour l'écosystème en train d'émerger en dessous. Le chercheur Julio César Centeno alerte en effet sur le fait que cette couverture va se dégrader sous l'effet du soleil, de la pluie et du vent, entraînant la dissémination de micro- et nanoplastiques dangereux pour la santé de plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais aussi pour la faune et pour la flore. Et Julio César Centeno, il s'y connaît bien sur le sujet, il a vraiment écrit de nombreux articles sur cette question en rassemblant différentes études menées sur les géotextiles, déjà déployés en Europe. Les résultats sont effrayants. Car oui, en fait, l'utilisation des géotextiles pour la protection des glaciers est pratiquée dans plusieurs pays européens depuis plus de 20 ans, en Suisse, en Italie, en Autriche, en France. Dans les cas les plus connus en Europe, ce recouvrement arrive à la fin de la saison de ski et retiré au début de la suivante, en gros pendant l'été et le soleil. Et ces formes de géo-ingénierie, elles font partie de ce qu'on appelle le technosolutionnisme, dont les fervents croyants pensent inverser et atténuer le changement climatique par encore davantage de technologies, encore plus performantes, et utilisant du coup encore plus de matières premières extraites à grands coups d'engins polluants. Disons qu'on pourrait presque en rire, des glaciers présents depuis des millions d'années sont en train de fondre tellement nos modes de vie ne sont pas respectueux du vivant et de nous-mêmes, et la proposition qui est faite c'est « tiens, si on mettait les glaciers sous une couette ». Bref, pour ma part, je retourne sous la mienne, au chaud, et prier pour qu'on se réveille vraiment en 2025 avec de vraies idées et un vrai changement.
Merci beaucoup Manon, et non, ne faisons pas couler plus d'eau encore en cédant au désespoir. Gardons l'envie d'éveiller les consciences et de convaincre les climato-sceptiques qui constituaient en 2023 encore 37% de la population française. On passe tout de suite à une chronique qui vous réchauffera le cœur et mettra en éveil vos papilles, celle de Pauline sur la cuisine vénézuélienne. Bonsoir Pauline.
Bonsoir Anaëlle.
Pour aujourd'hui, tu nous as concocté une petite chronique avec au menu un savoir-faire culinaire mêlant histoire, artisanat et surtout un produit typique du Venezuela. Cette tradition vient d'être inscrite par l'UNESCO en décembre 2024 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dis-nous en plus.
Et oui, des sommets andins aux plages des Caraïbes, le Venezuela est le berceau d'une diversité de paysages qui se reflètent dans son art, sa musique, mais aussi sa gastronomie. Le savoir-faire culinaire de chaque région est façonné par ses produits et ses traditions. C'est d'autant plus vrai au Venezuela, qui a connu ce mélange unique issu de racines indigènes, espagnoles et africaines. Pour raconter cette histoire, j'ai avec moi un ingrédient essentiel, le manioc, une plante d'origine Amérique centrale et du Sud, plus particulièrement du sud-ouest du bassin amazonien. C'est avec cette plante, plus particulièrement de sa transformation en farine, qu'est fabriquée la cassave. Cette galette unique à la texture croquante pourrait être la plus ancienne façon de consommer le manioc. Mais elle peut aussi, à elle seule, nous raconter l'histoire d'un pays. Pour cela, il faut remonter un peu dans le temps. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Plusieurs navires espagnols sont remplis de farine de manioc avec laquelle on fait du pain pendant la traversée, que l'on nomme aussi le pain du Brésil. Ce témoignage, c'est celui du capitaine de navire hollandais De Erik Ruyter dans son ouvrage Le flambeau de la marine paru en 1623. Il raconte le transport du manioc en farine alors consommé durant la traversée sous forme de galette. Mais le manioc est lui beaucoup plus ancien. Des recherches archéologiques ont prouvé qu'il fut primitivement cultivé il y a de ça 40 000 ans au Pérou et aussi au Venezuela. Originaire du Venezuela, le manioc s'est répandu dans de nombreux pays de climat tropical et équatorial. C'est une plante de plaine qui peut prospérer jusqu'à 1000 mètres d'altitude, comme sur les tepuis, ces hauts plateaux que l'on trouve au Venezuela. Cette plante fut d'abord consommée par les Arawaks, ces populations indigènes issues de la forêt amazonienne qui peuplèrent le continent à l'ère précolombienne. Le nom d'Arawak, ne désignant pas un peuple en particulier, mais bien une famille linguistique à laquelle se rattachent de nombreuses populations d'Amazonie, comme par exemple les populations Kalina ou encore les Kalinago. Ce sont alors les premiers Amérindiens à entrer en contact avec les Espagnols au XVe siècle. Le manioc était leur aliment de base. Une fois transporté dans une hotte, le manioc est ensuite épluché et râpé avant d'être pressé pour extraire et enlever le jus toxique. La farine, quant à elle, est tamisée à l'aide d'un outil en bois soigneusement tissé qui permet de préparer la semoule de manioc, que l'on nomme le couac. Un autre objet essentiel est l'éventail, qui sert alors de combustible pour attiser le feu lors de la cuisson de la cassave. Celle-ci est mise dans des formes en cuivre ou en fer blanc calibré pour la cuisson. D'après les historiens, les Arawaks faisaient la distinction entre le manioc doux et le manioc amer et le travaillaient au son des tambours. Les Espagnols, arrivés sur le continent américain au XVe siècle, méprisèrent cette denrée et la réservèrent aux esclaves africains, qui en firent leur nourriture de base. Au XVIIe siècle, ce mets était considéré comme indigeste et immangeable. En effet, la galette était placée dans le four et aussitôt retirée quand elle commençait à roussir. Cela donnait une mauvaise galette à peine cuite sur les bords, à l'intérieur pâteux qui devenait même impossible à mâcher ou à avaler. Au bout de 2 jours, sa pâte moisissait, ce qui la faisait refuser tant par les esclaves que par les cochons. À la même époque, la cassave se cuisait sur des plaques de fer polies avec du grès. Elles étaient mises ensuite sur les fourneaux. Quand la cuisson avait solidifié la pâte, la pelle permettait de retourner facilement. Plus la cassave était mince, plus elle était délicate et croquante. Dans les Antilles, les cassaves sont très répandues et se consomment fourrées à la morue ou l'avocat ou encore sucrées à la confiture de coco. Cette galette, avec une histoire unique, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO.
Eh bien, merci Pauline, je crois que tu nous as ouvert l'appétit. Et à défaut de pouvoir goûter de la cassave, et si on allait manger quelques arepas après l'émission ?
Vamos !
Et c'est la fin de cet épisode consacré à la montée en puissance de l'autoritarisme au Venezuela. C'était Anaëlle à la présentation. Merci à Michael Adarve à la réalisation et merci à toutes les chroniqueuses et coproductrices de cette émission, ainsi qu'à Matteo Rey et à Thomas Posado pour leur disponibilité et leurs précieuses contributions. Suivez-nous si ce n'est déjà fait sur Instagram, @semillaslatinasradio, pour des illustrations, synthèses, compléments et vidéos inédites. On se retrouve dans un mois pour un épisode consacré à la Bolivie. Mais avant ça, si le cœur vous en dit, rendez-vous dès mardi prochain, le 21 janvier, pour une paranda vénézuélienne à la péniche Anaco dans le 19e. Vous pouvez venir munis de vos instruments. En tout cas, venez avec votre envie de danser. Nous, on y sera.